I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis vraiment content de lancer la saison 3. Et j'ai une bonne nouvelle. Je pense que j'ai enfin trouvé le bon candidat pour notre épisode sur les droits. Ça fait un moment qu'on essaye de le faire. Et en fait, je pense que Nicolas Manissier, qui est le directeur des acquisitions de l'équipe, serait parfait pour nous parler du sujet. Il s'occupe donc d'acheter des droits à l'équipe et puis il a travaillé dans le milieu des médias avant. Il a notamment dirigé Média 365 pendant des années. Donc je pense que ça pourrait être un super épisode et puis en plus il a plein d'histoires à raconter.
Très belle prise. Je crois que le CV de Nico est parfait pour cet épisode. C'est le guest idéal. Donc en fonction de ses dispos, tu me tiens au jus et puis... Et puis on fonce, ok? Allez, la bise.
Eh ben écoute, top, parfait. Du coup, on se retrouve début de semaine prochaine au studio, à Sopress. Et j'ai hâte de relancer la machine. Allez, je t'embrasse, à très vite.
Alternative Football. Alternative Football.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Alternative Football, le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour le premier épisode de la saison 3 d'Alternative Football. Salut Monsieur Cissé.
Bah salut. Bonne année.
Mais bonne année, c'est vrai qu'on s'est... Alors on est, pour rien vous cacher, en février, donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais on s'était laissé fin décembre.
Faut souhaiter effectivement, bonne année, bonne santé, plein de belles choses.
Absolument, et donc on commence cette année de fort belle manière, parce qu'on a la chance, le privilège de recevoir Nicolas Manissier.
Bonjour.
Qui est directeur des acquisitions à l'équipe. Salut Nico.
Salut Matt, salut Edouard.
Salut Nico.
Voilà. Ça me fait. Je ne le cache pas, je suis très heureux de te recevoir pour un épisode qui nous tient à cœur particulièrement parce que c'est un sujet qu'on a envie d'adresser depuis un petit moment. Parce qu'il est quand même assez important dans le foot business et dans le sport business en général. Et donc on va passer.
Il est toujours d'actualité.
Il est toujours d'actualité, absolument. Et donc on va passer un petit peu de temps à discuter des droits. Les fameux droits.
Ah, les droits
télé.
Droits
télé.
Et donc, c'est quoi tout ça?
C'est une très bonne première question pour un peu poser le contexte pour nos auditeurs. C'est quoi ces fameux droits? Est-ce que tu peux un peu expliquer les tenants et les aboutissants, l'histoire, s'il y en a une, pour les gens qui ont une compréhension assez lointaine de ça?
En fait, le foot, c'est une activité ludique qu'on pratique tous, mais c'est aussi c'est une activité économique. Et puis, on le sait tous, ça prend des proportions qui sont énormes. Et il suffit de voir un euro, une Coupe du Monde, une Ligue des Champions. Mais en fait, c'est fondé sur un certain nombre de recettes. Et il y a des billetteries dans les stades, il y a les sponsors, puis il y a les droits télé. Parce qu'il faut bien financer tout ça. Donc les droits télé, c'est ce que payent les chaînes de télé pour avoir la possibilité de diffuser des compétitions, des matchs. Et n'importe qui sait que ce soir, la Ligue des Champions, ou demain soir, Chelsea-Lille, c'est sur Canal+. Et puis c'est chez personne d'autre. Et puis la semaine dernière, on a à peu près tous maté PSG-Real, et on était bien contents d'ailleurs.
Ouais.
Ceux qui aiment le foot, en tout cas.
Bien sûr.
Et on savait que c'était sur Canal. Et puis en revanche, il y a d'autres moments où la Ligue 1, c'est sur Amazon, ou la Première Ligue, c'est sur Canal+. Mais en fait, ces diffuseurs-là, ils ont payé pour avoir le droit de diffuser ces matchs-là. Et la contrepartie, c'est que eux, avec cette exclusivité, ils vont faire des abonnés. D'autres vont faire de la pub. Ils en retirent quelque chose. Et puis, bah, celui qui organise, ça lui fait du pognon pour aller refinancer l'intégralité de son modèle économique. Voilà.
D'accord. Donc,
très bien expliqué.
Ouais,
c'est pas évident.
C'est toujours un peu.
Je voulais savoir comment elle allait s'en sortir. Mais...
très clair. Très, avec classe.
Ouais, comme un peu long, un peu long.
Non, non, non. Ah bah, écoute, c'est... moins long, c'était une. C'est quoi l'émission là, en trois mots, en trois tubes? C'est pas Motus, c'est Pyramide.
Ah oui, Pyramide.
Plus court, Pyramide en trois. Ouais.
En tout cas, c'est plus court que certaines de mes questions, donc ça veut dire que tu es quand même resté dans un timing assez intéressant.
Méfie-toi, je peux être long.
Bah écoute, on a hâte de le découvrir. Mais donc, si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, il y a différentes sources de revenus pour les acteurs du sport. Ça, effectivement, je pense que tout le monde a à peu près une vision de ça. Mais en gros, les droits télé, c'est ce qui génère le plus d'argent. Et ensuite, ces droits-là ruissellent à peu près. Et ça permet aux clubs, aux ligues d'investir.
Ça fait partie, c'est un des trois piliers. Hein. Il y a trois piliers. Il y a les droits, il y a donc la billetterie, l'hospitalité. Enfin, en tout cas, ce que les clubs génèrent par le public qui vient dans les stades. Puis il y a le sponsoring. Sponsoring, c'est surtout quand on vend le maillot. Et on entend parfois des histoires, des deals sur 4-5 ans à plusieurs dizaines, parfois centaines de millions d'euros pour être le sponsor maillot de United ou du Barça, etc. Les droits en foot, c'est ce qu'il y a de plus gros. Le foot est particulier, attention, hein, là on va parler de foot ce soir, mais on pourra faire peut-être un petit pas de côté sur les autres sports.
Ouais. Le biathlon, j'aimerais bien.
Le biathlon, c'est beaucoup moins cher que le foot, ça c'est sûr. Et après, pour commencer à répondre à ta question, Matt, oui, ça va ruisseler, c'est-à-dire que ces droits-là, ils sont redistribués, hein. C'est d'ailleurs tout le problème, je pense qu'on va en parler, c'est que les clubs, ils ont besoin de toujours plus d'argent. Ouais. Voilà. Pour payer les joueurs.
Pour équilibrer leur budget.
Ben pour essayer d'équilibrer leur budget.
c'est plus ça, malheureusement, ça sert à ça. Et concrètement, l'équipe, ta chaîne, vous positionnez sur quel droit? Parce qu'il y a des droits premium, c'était Laurent Salaudan qui nous a expliqué, il se positionne sur les droits premium, donc c'est une vraie guerre, il faut dépenser énormément d'argent. Mmh. Et vous, l'équipe, vous arbitrez un peu, vous pouvez pas aller sur tous les droits ou
non,
dans la guerre malgré tout, même en sachant que vous avez pas les moyens ou vous voulez pas mettre cette somme là.
Pour la beauté du geste, parfois on candidate, il y a des appels d'offres, hein, pareil, ça fait partie des sujets qui sont souvent un peu mystérieux, énigmatiques. Si vous voulez, je vous expliquerai comment ça se passe. Ouais. Mais nous, on n'a clairement pas les moyens d'aller sur la Ligue des Champions, la Ligue 1, enfin les droits qui sont les plus premium, parce qu'en fait, ils sont devenus tellement chers que pour une chaîne gratuite, nous, on est gratuit, il n'y a pas de rationalité économique. La Ligue 1, c'est moins cher que prévu, mais ça reste un droit. Reste quand on fait la somme de ce que paye Canal et de ce que paye Amazon, c'est grosso modo 600 millions d'euros par an. Faut réussir à trouver un moyen de se refinancer, parce qu'une fois qu'on a payé les droits, après il faut produire les matchs aussi, hein, ça s'arrête pas là,
ça coûte.
Donc ces acteurs là qui sont payants, ils tablent sur le fait d'avoir des abonnés et que les abonnés viennent rembourser ces droits, et quand on est gratuit comme nous, l'équipe, mais c'est vrai pour France Télévisions, TF1, M6,
il y a pas d'intérêt,
il faut réussir à avoir suffisamment de recettes pub pour payer ces montants-là.
C'est ton seul revenu. C'est comme ça que tu gagnes ta vie, c'est en vendant de la pub. T'as pas effectivement la capacité de charger l'abonné.
Donc nous, non, on va pas sur les droits qui coûtent des dizaines ou des centaines de millions d'euros. En revanche, il se passe un phénomène qui est hyper, hyper intéressant pour nous en ce moment. C'est que, il y a eu des, entre guillemets, des effondrements des gros, gros diffuseurs de sport en France. Mmh. Et en fait, il y a eu un effondrement qui a suivi une période où c'était une sorte d'Eldorado, la France. Ouais. Donc, il y a eu beIN Sport qui est arrivé en 2012. Mais avant beIN Sport, il y avait Orange qui avait mis beaucoup d'argent sur la Ligue 1.
Il y a eu TPS aussi.
Après beIN Sport, il y a eu RMC qui arrivait, qui a mis encore plus d'argent sur la Ligue des Champions. Et puis, non content d'avoir RMC, beIN, etc., il y a Mediapro qui est arrivé et qui a surenchéri sur la Ligue 1. Et en fait, le défaut de Mediapro, qui s'est quand même cassé la figure au bout de 6 mois, ça a fait peur à tout le monde. Ouais. Ils se sont rendus compte qu'on est allé un peu trop loin.
Le truc justement que tu disais sur la valeur des droits premium et cette flambée qu'on a eue notamment sur la France, est-ce que le fait que les droits... premium, donc les droits premium en France, en gros, c'est le football domestique, la Ligue des Champions.
Ouais.
Est-ce qu'on met la première ligue dedans?
Non.
On est d'accord que c'est Ligue des Champions et le droit domestique, la Ligue 1.
Et encore reste, pas tous les matchs.
Et puis c'est l'équipe de France.
Ouais,
l'équipe
voilà,
de France.
Ouais.
L'équipe pas de tous France. Les matchs de Ligue 1.
Mmh. Ouais.
Que les affiches.
Le fait que ces droits-là montent en valeur, est-ce que du coup, quel est l'effet sur les autres types de droits? Est-ce que du coup, les droits premium perdent en valeur? Les droits non premium perdent en valeur? Est-ce que.
Mais oui, parce que, en fait, il suffit de se dire que. L'argent, il se multiplie pas, quoi. Ouais. Donc, en fait, si on met tout sur quelques droits,
ils font des all-in sur des droits, et puis après le reste, pas l'argent.
Ils ont beaucoup moins de d'argent à mettre sur le reste. Et donc, nous, on en profite un peu. On récupère.
La Ligue des Nations, c'est ça?
Typiquement, ouais. La Ligue des Nations. On a la Coupe d'Espagne. On a la Coupe.
Les qualifications.
D'Allemagne. On a fait la Coupe du Monde des clubs trois fois de suite. C'est quand même.
Initialement, c'était votre stratégie d'y aller, ou alors c'est par défaut? Vous vous êtes dit, il y a une possibilité.
C'est pas par défaut, parce qu'en fait, pour nous, c'est canon de les avoir, mais c'est surtout par opportunité.
Opportunité.
Les autres diffuseurs se retrouvent à être globalement assez insatisfaits des montants qu'ils mettent sur les droits les plus lourds. Et donc, ils n'ont pas la place pour mettre encore 30 compétitions complémentaires. Et puis surtout, personne se dit, est-ce qu'on rajoute encore de l'argent pour ça? Tu fais une sorte d'arbitrage, quoi. Ouais. Et nous, on se retrouve, et c'est génial, avec des opportunités. Typiquement, la Coupe d'Espagne, nous, on s'est fait un classico, quoi. Ouais. C'était la Super Coupe en janvier.
Et puis tu proposes du foot en clair à la télé à un pays qu'on a envie, qu'on redemande, puisque culturellement, en plus, on a eu pendant très longtemps du foot gratuit à la télé. On a eu Ligue des Champions sur TF1 pendant assez longtemps en comparaison à d'autres pays. Donc on a très peu éduqué, on a éduqué très tard l'audience française à payer pour du premium. Donc le fait de retrouver du foot à la télé gratuite, ça marche très bien.
Alternative football.
Ça arrive d'aller sur des droits en sachant que tu peux pas les gagner.
Ouais.
Mais tu y vas quand même.
Ouais.
Pourquoi?
Le marché des droits, c'est un tout petit marché. Vraiment. Et tout le monde se connaît. Et pas que le foot. Je veux dire, il y a un événement chaque année. On s'y est croisé, Matt. Ça s'appelle le Sportel. Le Sportel, c'est à Monaco. Il y a, en gros, tous les vendeurs et tous les acheteurs presque au monde, quoi.
Ouais.
Donc, c'est les chaînes de télé et puis les agences et les fédés, les ligues qui se retrouvent. On est peut-être 2000. 2000 personnes, au bout d'un moment, tu te connais, quoi. Et donc, il faut, c'est un théâtre. C'est un théâtre à ciel ouvert. Donc, il y a ceux qui sont un peu dans la loose. On n'a plus d'argent, on n'achète plus rien. Il y a ceux qui sont sur une bonne dynamique. Mais c'est vrai.
Mais c'est exactement
comme les élections. En ce moment, il y a un machin qui prend des. Dans les sondages, quoi.
Tu sais que t'es regardé, en plus. Donc, Sportel, qui est vraiment, en fait, c'est un marché à ciel ouvert. Et où tu sais que, Nico de l'équipe, tu vas le voir en train de discuter avec tel
avec
vendeur.
Avec la NBA. Voilà, attention, en ce moment, ça doit bien aller pour eux. J'ai envie de parler avec lui. Mais oui, c'est ça.
Et puis, t'as un côté qui est assez marrant, parce que qui scénarise ça. C'est-à-dire que t'as différents endroits de Sportel, t'as les stands, là-haut, t'as un bar, etc. Et t'en as qui font en sorte que le meeting qui te met un peu le doute dans la tête du concurrent, il soit au milieu du bar, en haut, sur la terrasse, avec lunettes de soleil pour faire bien show-off. Donc c'est effectivement assez marrant.
Et donc c'est pour ça que tu vas te positionner parfois sur des droits, tu sais très bien que tu les auras pas, mais t'es dans le jeu, quoi.
Il faut y être.
Ouais, exactement.
Et t'as un exemple de bonne surprise, c'est-à-dire que ce soit chez toi ou ailleurs, ouais, les mecs ils y sont allés en disant bon, pourquoi pas, et sur un malentendu, le truc est passé parce que finalement l'offre était pas si déconnante, parce que celui qui était le favori finalement se retire.
Je crois que t'expliques aussi la méthode des offres.
Ouais, bien sûr. Ouais,
parce que les appels d'offres, c'est important, parce que si tu sais combien a mis l'autre, il faut tu rajoutes, mais personne ne sait.
Mais personne ne sait.
C'est une supputation. Et...
Ah, vous voulez que je vous raconte comment se passe un appel d'offres? Je vous donne une anecdote, un truc où nous, on a étonné le marché. Voilà.
On est clients.
Donc un appel d'offres, il n'y en a pas beaucoup des appels d'offres. 95% des cas, c'est ce qu'on appelle du gré à gré. Donc en fait, c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de monde. Et on s'appelle. Ah, j'ai ça à vendre, ça t'intéresse, etc. Et tout. Pourquoi pas, on discute. Je ferais presque dire qu'on se croirait sur une sorte de bazar avec des gens qui ont des trucs à vendre et dont ils ne sont pas sûrs que d'autres veulent les acheter. Et puis, tu as des gars qui sont là pour remplir des grilles. Pour remplir des grilles, il faut faire du marketing pour ta chaîne. Donc, parfois, un droit, on sait qu'il n'est pas génial, mais avoir le logo dans ta pub, etc. Bah, en fait,
ouais,
ça le fait.
Chercher les abonnés.
Je te coupe deux ans, mais typiquement, moi, c'est un peu comme ça que je vois que la NBA. Parce que la NBA, c'est une super marque, c'est hyper intéressant. Puis en général, c'est très bien produit, ils savent le faire, etc. En revanche, la NBA, ça veut dire qu'il faut que tu amènes des gens devant ta chaîne à 2h du matin, un soir de semaine. Et ça, à part les amis de Trash Talk qui sont pas très loin, des mecs qui sont prêts à se lever à 2h tous les soirs de semaine pour regarder la NBA, il y en a pas des millions.
Il y en a pas beaucoup. Nous, on a fait un deal l'été dernier. J'ai récupéré la Copa América. J'étais ravi, dans le foot. Donc, la Copa América, t'as Messi, t'as Neymar, machin, tout. Mais la vérité, c'est que c'est à 4h du mat, les matchs. Donc, non, tu fais pas des grosses audiences.
Puis à 2 à l'heure aussi, les mecs. Ah ouais, oh, les salauds, j'aurais pu jouer jusqu'à 40 ans là-bas.
Ah merde.
Bon, bref, non, c'est un petit tac.
Ils ont 8 heures ou 10 heures de décalage horaire.
Non, eux, non, les joueurs qui. Bon, mais non, mais le niveau là-bas, il est vraiment. Ils jouent arrêtés, quoi, les mecs.
T'aurais pu finir à Boca comme De Rossi.
Voilà, ça, c'est la classe.
Je t'ai coupé sur un truc qui nous intéresse particulièrement, c'est le process des appels d'offres. Pardon.
Donc, les appels d'offres, donc c'est très rare. En fait, il y a des appels d'offres sur des droits, soit parce que c'est la loi qui l'impose. Par exemple, la FFF va lancer un appel d'offres sur la Coupe de France, en France.
Ils n'ont pas le choix. 2022, là, ça se termine.
Ça ne va pas tarder. Là, ils sont déjà en train de discuter avec le marché. Un appel d'offres, il n'arrive jamais comme ça. Tiens, tout d'un coup, on reçoit un courrier.
Mais en offre, ils ont pu déjà discuter avec des.
Bien sûr, mais ils parlent avec tous les diffuseurs, ils sont en train de préparer l'appel d'offres, en fait. Donc, un appel d'offres, c'est factuellement, voilà, on reçoit des pages et des pages et des pages de présentation de ce que va être le droit qui est à vendre. Alors, c'est vraiment très juridique, souvent. C'est assez indigeste.
Donc, exemple.
Exemple, l'appel d'offres de la Ligue 1. Okay. Celui-là, il est célébrissime pour être
super.
Très compliqué.
Ah, bah, j'explique,
et c'est fait exprès, d'ailleurs. Plus c'est compliqué, plus ça met des nœuds dans la tête.
Qu'est-ce qu'il y a dans cet appel ?
Alors, en fait, tu vas avoir la description des lots. Et les lots, ça va être...
Ah ouais, le 1, 2,
exactement. 3, donc,
qui correspondent aux cases de diffusion.
Ouais, exactement. Voilà. Mais tu vas avoir aussi toute la description de ce qu'il faut faire. Parce que quand tu gagnes les droits de la Ligue 1, il faut produire. Et donc, on te dit le cahier des charges.
Ah, voilà.
C'est les 18 ou les 22 caméras.
Les
où est-ce que tu dois
charges,
les mettre,
exact.
Etc. Tu vas aussi avoir, c'est très important, toute la description de... comment tu peux quand même le revendre. C'est-à-dire tout le sponsoring. Quand tu es diffuseur, tu as le droit de dire, ou tu as le droit ou pas, c'est défini dans l'appel d'offres, de vendre ce match, vous êtes présenté par Speedy. Et ça, c'est pas, tu ne fais pas ce que tu veux, c'est défini dans l'appel d'offres. Et puis si tu peux l'utiliser sur tes réseaux sociaux, à partir de quelle heure est-ce que tu peux mettre les résumés ? Typiquement, Amazon, ils n'ont pas les résumés.
Non.
C'est pour ça qu'il y a des espèces de scandales parfois. Le but de Wabi Kazri, là, qu'on n'a pas pu voir avant le dimanche soir minuit, alors que c'était le samedi après-midi. Ouais. Ça, parce que dans l'appel d'offres, il était défini, et c'est la LFP qui avait défini, pour rendre, a priori, l'appel d'offres le plus fructueux possible, eh ben, il faut fractionner autant que possible les droits.
En tout complexifier, cas, comme ça, tu crées un peu de...
Exactement. Ouais, et quand tu complexifies, tu crées du doute dans la tête des 3-4 candidats qui vont s'affronter, quoi. C'est un peu tout le principe d'un appel d'offres. En tout cas, dernièrement, l'UEFA fait beaucoup ça.
Okay.
La LFP l'a fait. Et je pense qu'ils vont y revenir, enfin, en revenir de ça, parce qu'au final, ça crée beaucoup de défiance. Un diffuseur, il a besoin quand même d'être dans une logique de partenariat, quoi, avec l'organisation avec laquelle il bosse. Nous, quand on a un deal avec l'UEFA, on diffuse les qualifs à la Coupe du Monde. Bon. Si ils ont envie qu'on revienne, il faut qu'ils nous facilitent la vie, pas qu'ils nous la complexifient.
Ils font confiance encore.
Et il y a le contrat, et après, il y a l'esprit.
Bon. Okay.
Et donc, tout ça pour dire qu'un appel d'offres, c'est un gros document juridique auquel il faut répondre, et parfois dans beaucoup, beaucoup de détails. C'est-à-dire qu'à la fin, évidemment que la bottom line, comme on dit en anglais, c'est le chèque, le montant qu'on va donner. Mais d'abord, qui propose le chèque, il faut quand même que tu existes. Si tu débarques de nulle part et que tu dis je crée ma chaîne, bien vu Media Pro.
Ouais, non, mais c'est...
Donc ça compte quand même. Si c'est Canal Plus qui vient avec.
C'est salaud ce que tu viens de mettre. Ils avaient des ambitions. Hein.
Les choses sont hyper claires. C'est-à-dire que tu dois avoir quand même un certain pédigré. Et ensuite, je disais, c'est important quand même ce que tu vas proposer en édito. Et puis, ce qui est important, c'est la promotion que tu vas apporter. C'est-à-dire que une chaîne qui existe, qui a vraiment, voilà, qui est établie depuis longtemps, mais qui est toute petite, parce qu'elle n'a pas réussi à déployer un gros portefeuille d'abonnés, et qui te dit pas, moi je vais faire une grosse promo, ça peut être une impasse quand même pour un droit. C'est-à-dire que oui, tu vas vendre la diffusion de ton. Je vais prendre un exemple qui n'est pas le foot, et que nous on connaît plutôt bien. Après, voilà, moi je les connais, ces gens-là, et j'en parle avec eux de temps en temps, donc ils le prendront pas mal, je pense. C'est le basket français.
Ouais.
Voilà. Le basket français, ouais, mais tu vas voir.
Ça, personne n'en veut les droits.
Ah ben, mais pourquoi personne n'en veut les droits?
Personne n'en veut. Ah, parce que c'est ce que j'ai entendu.
Vous avez diffusé
l'année dernière. Oui, on a diffusé, mais avant qu'il soit diffusé chez nous, ils ont été dans un deal avec AMC Sport.
Ouais.
Un deal hyper rémunérateur, 10 millions d'euros par an, quand même. C'était un gros deal.
Ils se sont endormis, 5 ans. C'est ça.
Je ne sais pas s'ils se sont endormis, mais en tout cas, ils se sont retrouvés, c'est hyper factuel, je ne juge pas, mais ils se sont retrouvés sur une chaîne qui leur permettait d'avoir peut-être 5-10 000 téléspectateurs par match.
Donc, ils ont gagné plus d'argent,
oui.
Mais ils n'ont pas eu plus de visibilité.
Ils ont eu une visibilité anecdotique, voilà, embryonnaire. C'est... Et en fait, quand tu fais ce choix-là, je pense que tu fais une erreur, parce que tu ne regardes que le chèque. Et tu ne regardes pas la promotion, tu ne regardes pas vraiment l'éditorial, en tout cas peut-être qu'il était bon l'éditorial, mais personne ne l'a vu. Tu ne regardes pas le pédigré de la chaîne, et surtout si tu es prioritaire ou si tu es secondaire. Et pour le coup, c'était le cas. Ils étaient carrément secondaires dans
Les RMC. Sur une chaîne qui avait de la PL, qui avait de la Ligue des Champions.
Donc, à la fin, quand ça s'est terminé, ils ont pris pas mal d'argent pendant 5 saisons. Ah oui, mais qui veut maintenant le basket français ?
Alternative Football.
Je vais vous raconter une anecdote là-dessus. Le premier appel d'offres d'importance auquel j'ai participé, c'était l'UEFA sur les équipes nationales. Donc, on est en 2016. Et donc, ils mettent sur le marché les matchs de l'équipe de France, mais aussi tous les matchs de qualif à l'Euro 2020, à la Coupe du Monde 2022. L'équipe a commencé à diffuser du sport, mais vient de commencer. On a acheté les droits du biathlon, un peu notre blockbuster, 3 mois avant. Et personne ne nous attend sur cet appel d'offres, mais vraiment personne. Et à l'époque, il y a 3 lots. Il y a un lot, les matchs de l'équipe de France, avec 2 parties dans ce lot. Je vais essayer de ne pas être trop complexe. Et donc, on sait très bien que c'est TF1 et M6 qui vont y aller. Il n'y a pas de...
Ils font tout le temps ça.
Voilà. Il n'y a pas de sujet. Il y a un second lot, c'est le meilleur match de chaque semaine. Alors, le Allemagne-Italie, le...
De chaque journée.
De chaque journée, ouais. Exactement. Sachant que les mecs ont créé la Nations League pour remplacer les matchs amicaux. Ouais. Donc, il y a cette promesse d'avoir toutes les semaines des gros matchs, des grosses affiches. Et puis, il y a un dernier lot, c'est tous les autres matchs. Ce dernier lot, clairement, il est fait pour une chaîne payante, c'est sûr et certain. Ouais. Tous les matchs, je veux dire. Et personne ne voit venir que nous, ce lot-là,
il nous intéresse.
On le voit comme une manière... de devenir un partenaire clair et net de l'UEFA.
C'est celui-là qui vous plaît, en fin de compte. Dès le départ, vous dites, c'est celui-là.
Mais évidemment, on communique absolument à personne que c'est un lot qui nous intéresse. Et on se retrouve à être les seuls à répondre.
L'appel d'offre. Ouais, parce que
c'est les seuls à bider sur ça.
On est les seuls à bider, Matt. On est les seuls à
bider. Après, il y a des purges. Hein. Non, c'est pas. C'est...
Bien sûr.
Il faut être culotté parce qu'il y a des vraies purges. Hein.
Même des nations,
tu tapes du chip, je sais pas quoi. Il faut avoir envie. Hein.
Mais c'est vrai que tu vois...
Il faut aimer le foot.
Il faut aimer le foot, mais
c'est judicieux.
Mais tu te dis, si on veut prendre une position un peu majeure, en fait, sur une semaine internationale...
Il faut y aller.
T'as des matchs tous les jours.
Il y a une fenêtre de tir, tu fonces.
Et puis, t'as pas l'Allemagne-Angleterre, mais tu peux avoir un Angleterre-Roumanie ou un Angleterre-République tchèque. Et ça, le fan de foot, il a envie de le voir.
Et tu peux avoir du but, tu peux avoir... Mais c'est culotté.
Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on aurait les résumés de tous les matchs. que dans l'équipe du soir, on pouvait mettre autant de foot qu'on voulait, parce qu'en fait, dans les droits, t'as le live, mais t'as aussi ce qu'on appelle les highlights, les résumés, t'as toutes les images, sur nos réseaux sociaux, sur le site, on peut mettre autant de buts qu'on veut, donc on se dit, bah, ça va être une sorte de prise de guerre, quoi. Ouais. Tout d'un coup, bah, nous, on est diffuseurs de tous les matchs de foot des équipes nationales. C'est pas rien, t'as Ronaldo, t'as Mbappé, t'as Griezmann, t'as Harry Kane, enfin, je veux dire, tout d'un coup, tu te l'appropries, parce que quand t'achètes un droit, tu peux utiliser dans toute ta communication le fait que tu l'as, quoi.
Ouais.
Et donc, on était tout seul. Mais personne ne s'y attendait. Et ceux qui s'y attendaient surtout pas, c'était FRM6.
Ouais, qui allait, selon eux, être le diffuseur du football international en France. Mais et
qui allait jamais être concurrencé en clair.
Ouais, c'est en plus
parce que ce qui se passe, c'est que en face du match de l'équipe de France, nous, pas mal de fois, on s'est retrouvés à voir le Portugal. Alors, évidemment, l'équipe de France, elle va toujours faire 5 ou 6 millions de téléspectateurs.
Mais il y a les Portugais qui sont là.
Mais c'est quand même...
Il y a le Portugal.
Non, mais c'est pas une grosse, c'est pas une opération géniale pour eux de se retrouver avec une concurrence foot sur une chaîne gratuite. Ils ont été très, très, très en colère contre l'UEFA, contre l'agence de l'UEFA, qui s'appelle CA 11, qui a organisé cet appel d'offres. Parce qu'évidemment... tout ça s'est fait de manière, la manière la plus secrète possible à l'appel d'offres. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça se sache. Mais quand les réponses, quand les résultats ont été donnés et qu'il a été annoncé que l'équipe récupérait un match par jour sur toutes les semaines internationales, ben là, je peux vous dire que c'était une très grosse surprise pour nous. Super.
Ouais.
Et sans nous dire les tarifs, je pense que c'était avantageux aussi financièrement. Rien à voir avec le montant de France.
Ouais, évidemment.
Coup, c'est intéressant.
Bah, sinon, on n'y serait pas allé, en fait.
Il y avait un rationnel. C'est-à-dire que dans votre position, tu n'es pas guidé par la pulsion. Tu es aussi rationnel. Tu sais ce que tu peux dépenser en droit et tu fais pas un all-in sur quelque chose qui ne serait pas rentable.
Alors, quand on est un diffuseur gratuit comme nous, tu ne peux pas, en effet. Mais on a vu, évidemment, des tas de situations où les gars pètent un câble.
Ouais. Voilà. Parce qu'ils se disent, si je perds ce droit-là ou si je ne l'ai pas, je suis mort.
Non, mais pour moi, le meilleur exemple, c'est le deuxième tour de l'appel d'offres Ligue des Champions en 2017. Quand RMC se retrouve en face de Canal et de beIN.
Oui, donc c'est là où ils surpayent.
Et ils surpayent, et la Ligue des Champions, sa valeur, elle double. Passe 350 millions d'euros par saison.
Canal n'était pas prêt à mettre ça et ils pensaient pas que
personne pensait qu'ils allaient mettre ça. Et là, ça se décide dans le bureau de, j'imagine, du PDG de SFR, vrai, de Patrick Drahi.
Ouais.
Et c'est complètement, je veux pas dire c'est irrationnel. Les mecs, ça suffit.
Non, mais
c'est pas économiquement.
Ils le refont plus.
Mais t'as un côté.
Il connaît les chiffres, il s'est dit, ah putain, ouais, on a visé trop. Ouais. Il y a une correction. Il y a une correction.
Ils ne sont pas retournés. Ça, voilà. Donc, a priori. Donc,
de facto, c'est logique.
Je remonte juste sur un truc que tu as dit qui est très vrai, parce qu'on n'a pas du tout. Je pense que les gens qui ne sont pas dans le milieu, peu de gens ont cette perception-là, je vais y arriver. C'est que c'est un petit milieu, le sport. Tout et le foot encore plus. Enfin, tu vois, on peut en parler dans la télé, on peut parler chez les agents, chez les joueurs. Enfin, tu vois, tout le monde se connaît.
Tout le monde.
Et ça, c'est un facteur qui est très important.
Donc, déjà, si t'es un mec sympa, si t'es un mec qui parle pas mal de langues, bah, tu vas être tout le temps en train de, tout le temps en train de récupérer de l'info, de parler, de rigoler, de t'amuser. Enfin, de t'amuser, c'est notre job.
Ouais.
Genre, c'est pas nos amis.
Mais il y a un côté hyper relationnel sur lequel je te rejoins complètement.
Oui, en fait, c'est comme ça qu'on va jauger, en fait, de est-ce que je suis tout seul, est-ce que j'ai aucune chance parce qu'il y en a un autre qui est tellement motivé que de toute façon c'est même pas la peine d'y aller. Enfin, nous on a quand même notre temps, il est limité, donc on peut
pas. Tu perds pas de temps sur un deal qui est...
Mais après, je peux comprendre, mais après sur le premium,
on
va en parler du premium, la Ligue 1, l'équipe de France ou la Champions League, grosso modo, les chaînes, elles savent ce qu'elles vont mettre, ce qu'elles veulent mettre, et elles se battent pour les mêmes produits, quelque part. Donc, elles savent, quelque part, plus ou moins ce qu'elles doivent mettre.
Bah, elles savent plus ou moins ce qu'elles doivent mettre.
Leur vendeur, peut-être.
Mais oui, enfin, sauf que c'est pas un marché... c'est pas un marché normal, parce qu'il n'y a pas une valeur, en fait.
C'est pour ça qu'elles n'aiment pas trop, que ce soit Canal ou beIN, elles n'aiment pas trop qu'il y ait un outsider, un mec de l'extérieur, qui fout n'importe quoi, comme beIN à l'époque, ou alors tout simplement Mediapro, parce que là, ça fout le bordel.
Ah, mais c'est sûr.
Et ben, ça a vraiment foutu vraiment le bordel parce que les présidents de club, ils attendent que les sous-sous. Mais du coup, ça nique un peu le système.
Mais je crois que tu mets le doigt sur ce qui est difficile, c'est que, et tu l'as bien formulé, il n'y a pas de valeur. La valeur, c'est ce que quelqu'un accepte de mettre. Et c'est ça qui est très difficile à juger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis quelques années, sur le marché des droits, on a cette fameuse chimère qui est de dire, de toute façon, l'OTT, les gens de la tech vont tout rafler parce que pour eux, ce qui se dépense dans les droits, c'est peanuts. Donc ils vont tout prendre. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette mort de la télé linéaire au profit de l'OTT, ça fait 10 ans qu'on en parle, elle n'arrive pas. Et ce qui est encore pire que ça, c'est que, notamment sur le marché français, Prime arrive quand justement c'est rationnel. Et ils vont pas faire quelque chose de complètement déconnant en termes de valeur. Je suis sur une fameuse question à rallonge. Déjà, quelle est ta vision de toi de cette mort de la télé linéaire au profit de l'OTT? Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'on est sur la fin de l'inflation des droits? Est-ce que, avec ce qui s'est passé récemment, on a compris qu'il y a plus ou moins un plafond?
Un plateau.
Et qu'on va y rester. Et tu te débrouilles avec tout
putain,
ça.
Alors ça, c'est vraiment pas facile. Hein. Si j'étais un homme politique, j'aurais tout noté dans ma tête et puis je te ferais une réponse. Ouais. L'OTT, alors personnellement, je pense que c'est vraiment pas mature, qu'on n'y est pas. Et là, une des raisons, c'est que pour que ça marche, l'OTT, il faut réussir à avoir une offre qui soit suffisamment attractive pour que le gars ne se pose pas 10 minutes la question.
Et c'est pas le cas. Pour l'instant, je pense que ça le sera jamais.
En fait, ça coûte un blé monstrueux de réussir à avoir dans la même offre à 10 euros.
C'est ça.
Parce que tu vas te comparer à Netflix, tu vas te comparer à ton abonnement Deezer, à ton abonnement au Monde, à ton Spotify, à des tas de trucs. Ça reste aujourd'hui dans l'esprit des gens un truc qui est sur ton téléphone. Pour un abonnement télé, on est prêt à payer en France 40 balles. Dans d'autres pays, au UK, ils sont prêts à payer 70 livres. Mais pour quelque chose que tu vas consommer sur ton téléphone ou sur ton PC ou sur ton Mac, en fait, on n'a pas, pour l'instant, le déclic mental.
Culturellement, on a du mal à faire le switch aussi, tu vois.
Donc, c'est pour ça que demain, s'il y a une offre Netflix du sport, qui est vraiment un serpent de mer... que Matt connaît bien, par ailleurs, avec une boîte qui s'appelle DAZN, qui arrive à faire des choses assez incroyables dans d'autres pays, mais pas en France. Ça peut marcher. Mais enfin, il faut réussir à avoir dans la même offre la Ligue 1, la Ligue des Champions, du tennis, etc. Je ne sais pas, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Et ça coûte super cher.
Et puis, je sais pas si ce sera rentable.
C'est ça la grosse question. Je suis d'accord avec Edouard.
C'est les sous-sous, on va dire, de la guerre.
Pour parler un peu de DAZN, sans faire des tonnes, parce qu'effectivement, c'est très peu connu sur le marché français. Ça existe en France, parce qu'il y a un peu de droit box dessus. Effectivement, la façon dont Simon Denyer, le patron de Perform à l'époque, le vend, c'est ça. C'est de dire, on va marketer ça le Netflix du sport et vous aurez la meilleure offre de sport pour 9,99. Et tu te rends compte qu'effectivement, si l'ambition, elle est... Elle est légitime parce qu'actuelle en termes de tech et en termes de consommation, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que les droits, ça n'a pas le même prix partout, parce que tu ne peux pas avoir une offre comme Netflix où à partir du moment où tu produis toi-même tes shows Netflix, tu peux les mettre partout dans le monde. Là, tu es tributaire de beaucoup d'autres acteurs. Donc ce schéma-là est bien plus difficile et je suis d'accord avec toi, il y a une grosse barrière culturelle, c'est que le fan de sport qui est un fan qui par nature est assez conservateur parce qu'il aime son équipe, il aime ses couleurs, il veut pas qu'on change de logo, etc. Son expérience de fan, elle est soit au stade, soit à la télé. C'est-à-dire, soit je suis dans l'expérience, je vais au stade, soit je suis dans le confort et je suis à la maison dans le canapé. Lui dire que, en fait, c'est génial, il va pouvoir regarder le match sur son téléphone, ça lui parle pas encore. Pour lui, regarder le match sur son téléphone, c'est quand il est obligé d'aller faire les courses le samedi, que le match est à 15h et qu'en gros, c'est hors de question de rester à la maison parce qu'il a une femme et des enfants qui lui demandent de faire autre chose. Et cette barrière culturelle là, je pense que c'est une grosse barrière pour l'OTT au-delà de la réalité des droits, et c'est pour ça que cette fameuse mort de la télé linéaire dont on a parlé en tout cas dans l'industrie du sport depuis des années, je pense qu'elle est pas pour demain.
Mais ça c'est personnel. C'est extraordinaire parce qu'en fait c'est un podcast où Matt pose les questions et fait les réponses. Mais donc c'est vraiment extraordinaire.
Il fait l'invité, il fait tout.
Alors la quatrième saison, ce sera des monologues.
Bah, Toto invité.
Ce sera des monologues. Non,
mais je suis complètement d'accord avec ça, évidemment. Non, mais t'as résumé. Je sais pas si résumé c'est le bon terme parce que c'était long.
J'ai expliqué. C'est parfait. T'as choisi ton camp, Nico, d'accord. T'es avec Monsieur Cissé pour me chambrer sur la.
Il y avait une deuxième question dans ta première question.
Ouais. Tu t'en rappelles?
Oui.
Ah, putain, c'est beau.
C'était, est-ce que, on en est où sur le marché des droits? Est-ce que ça va continuer de croître, etc. Alors là, moi, j'y réfléchis quand même pas mal à ça.
Ouais.
J'y réfléchis tout le temps, parce que c'est quand même mon job. Moi, je pense qu'il y a un gros problème sur le foot. En Europe, il y a un gros problème. C'est en train de se réguler. L'Europe rêve d'être comme les États-Unis, sauf que les États-Unis, c'est un seul unique marché. Ouais. La NFL, ils ont fait un deal à 10 milliards de dollars sur 10 ans. Déjà, en Europe, tu ne peux pas faire de deal sur plus que 4 ans. Donc, déjà, c'est une première chose. Peut-être le législateur réfléchit. Ils ont écrit à tous les diffuseurs. Est-ce que ça vous intéresserait? Vous seriez d'accord pour que les appels d'offres permettent de faire des deals de 5 ans? Enfin, 5 ans, ce n'est pas 10 ans.
Mais ça, c'est clé. C'est-à-dire que c'est la loi qui ne te permet pas de faire des appels d'offres plus longs.
Donc, l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. L'Europe, c'est complètement morcelé. Donc, avant qu'on se retrouve avec des deals comme la NFL ou la NBA, qui est quand même pas loin, hein, ça doit être quelque chose comme 7-8 milliards de dollars sur 10 ans, on n'y arrivera pas. Ensuite, moi, je pense clairement qu'il y a un gros problème avec le foot en Europe qui phagocyte trop d'argent en termes de droits. Et pourquoi? Parce que le foot, aujourd'hui, tout est trop cher. Le moindre transfert d'un joueur de 19 ans et demi qui part à Chelsea, je les aime bien Chelsea, moi je les ai rencontrés pour préparer le Ballon d'Or, ils sont super sympas et tout. Hein. Enfin, ils ont 45 joueurs dont les trois quarts ne jouent jamais, qui
sont
en prêt,
qui prêtent à droite à gauche.
Et qui achètent à des montants qui sont complètement induits.
Ouais, il n'y a pas que, il y a tout le monde.
En
Angleterre, il y a une surenchère. Ouais, je comprends.
Mais c'est vrai que Chelsea particulièrement, en général, tu as 20 joueurs de Chelsea au Vitesse Arnhem ou un truc comme ça. Enfin,
Et donc, en fait, il faut financer quand même tout ça. Ce n'est pas non plus des mécènes. Abramovic, il n'est pas là pour perdre de l'argent non plus. Quoi. Et c'est vrai pour City, c'est vrai pour tous ces clubs.
Mais autant la Première Ligue, on peut comprendre parce que c'est le championnat numéro 1, ils arrivent à vendre. Revenons sur la Ligue 1 a voulu faire la même chose. Sauf que ils vont atteindre un plateau, c'est pas pour eux, c'est quoi, c'est 670 millions, c'est ça? Tu les vois, tu vois les droits monter plus?
Ben non, mais en fait...
Que t'es Messi, Neymar, Mbappé, et si Mbappé part... comment tu peux d'ailleurs, comment ils peuvent grossir ces droits? C'est avec les stars qui viennent, on va communiquer sur eux, mais bon. Ou le PSG, mais tu peux pas communiquer que sur ça.
Non, mais il y a une injonction paradoxale entre ce que voudraient les clubs pour pouvoir financer leur croissance.
Oui, mais bon. Et une réalité, quoi.
Et voilà, et le principe de réalité. C'est-à-dire que toi, est-ce que tu es abonné à Amazon?
Et il a tout gratuit, ça.
Oui.
Ah, mais toi,
non, mais moi, c'est différent. Moi, je suis à part, mais plus ou moins, je suis obligé, c'est mon métier, donc je suis obligé d'avoir, savoir ce qui se passe, regarder les matchs, entre guillemets. D'accord. Mais globalement, non.
Il y a des tas de gens, et c'est pas contre Amazon. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui finissent par se dire, bon, en fait, je vais faire autre chose. C'est pas indispensable.
Oui, d'accord.
C'est pas indispensable. Et en fait, le foot s'est rendu pas indispensable aussi en étant très volatile, en changeant de diffuseur, en étant décevant. Il faut commencer par se poser la question de qui on est, quoi. Ouais. Je veux dire, un club de foot, ça reste ancré dans le quotidien des gens du coin.
Ouais, c'est du territoire.
Donc, évidemment, tu perds le lien quand l'effectif change tout le temps. Ouais. C'est quand même terrible, ça. Je veux dire, s'attacher à des joueurs... moi, je suis pas un grand fan du PSG, mais...
Personne n'est parfait.
Il y a quand même cette capacité à tirer le fil sur le long terme. Un Verratti qui est là, un Marquinhos qui sont là depuis des années. C'est important. Et quand on parle du Real Madrid, c'est pas juste un grand club, c'est un club qui aligne le même trident. Putain, mais sans déconner, c'est pas rien, ça. Le Barça de l'époque, avec 8 ou 9 joueurs de la Masia. Mais ça fait partie de ce qui est raconté par le club. Et à l'inverse, je suis désolé, mais un club comme l'Inter qui... pas un Italien sur la pelouse, c'est une marque qui est dévalorisée, quoi. Ça change tout le temps. Ah, il y a l'Inter, lui, bah, tiens, c'est nouveau. Bon, je pense qu'ils ont complètement tort de faire ça comme ça. La Juve, en ce moment, est en train de partir sur une très, très mauvaise voie aussi, d'ailleurs. Et donc, on parle... Enfin, le foot, c'est passionnel. Pourquoi on aime le foot? Parce que quand on était gamin, d'abord, on voyait en clair... les matchs de Coupe des clubs champions ou de Ligue des champions, on appelle comme on veut. Il n'y en avait pas très souvent. On avait le droit de regarder exceptionnellement. Mmh. Et puis, on a trippé. Certains, ma génération, sur l'OM. D'autres, un peu plus vieux, sur les Girondins.
Pourquoi il y a eu ce changement?
De quoi?
Par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, une vingtaine d'années, c'était les gros matchs. Enfin, les matchs, c'était en clair. Il n'y a pas sur du privé. Qu'est-ce qui a fait que... T'as connu ce switch? Enfin, t'es au courant de ce chiffre?
C'est devenu trop cher pour TF1. Voilà. Ouais.
Je pense que c'est ça. T'as les chaînes payantes qui sont arrivées en disant nous, on a une capacité d'investissement supérieure. On veut ce produit-là parce que les gens, c'est une marque identifiée, la petite musique, etc. TF1 avait, a beaucoup participé.
Oui, je trouve que c'était magnifique.
C'était extraordinaire. Tu te rappelles, t'avais la prise d'antenne justement à la fin du journal, juste avant la pub.
Bien sûr.
Et t'avais la petite musique avec gros plan sur Rooney, gros plan sur Ronaldo. Donc ça participait. Et je pense que le droit a pris trop de valeur. Et ensuite, t'as les chaînes payantes qui avaient plus de capacité d'investissement que les chaînes gratuites.
Pour aller chercher des abonnés. Enfin, Canal+ a choisi d'investir. Parce que je crois que c'est jusqu'en 2008 que TF1 diffusait encore. Enfin, vous étiez sur TF1,
la SM.
Mais c'est aussi ce qui fait cette épopée-là.
Exactement. Tu sais, j'essaie de comprendre comment c'est possible qu'il y ait des jeunes qui me parlent de Monaco. Monaco, c'est... Mais effectivement, mais c'était en clair. C'était en clair.
Mais le 8-3, on l'a tous vu.
C'était en clair. Et c'est vrai, c'est ça. Ah ben oui. Putain, ils m'ont vu en clair.
Bah oui, et ça change tout. Non mais ça change absolument tout.
Mon pote. Non mais effectivement, d'où l'épopée.
Voilà.
Alternative football.
Bon, pour revenir sur les droits de télé là, j'ai lu récemment là qu'il y avait pas mal d'appels d'offres là qui allaient, enfin, ou des droits qui allaient finir en fin de je sais pas quoi là.
La fin de cycle,
la FA Cup, la D1 féminine à Arkema et tout ça. Vous allez vous positionner sur
Ah, il veut l'exclure. Secret défense.
Édouard Cissé, ça y est, il est pas seulement journaliste.
C'est 2022, j'ai vu 2022.
Ça, c'est le coaching de Maxime Marchand qui nous pousse à poser des questions pour de la.
Non mais 2022, j'ai vu que c'était l'année quand même où il y avait renégociation de certains droits.
Il y a pas mal
droits.
De choses qui sont sur le marché en ce moment.
C'est déjà là, donc c'est déjà dans les coulisses.
Bien sûr. Enfin, je peux vous en faire profiter. Ça va pas dire ce que nous on va faire. D'abord, on n'est pas complètement sûr de ce qu'on va faire, mais il y a la Coupe de France de foot là qui.
Elle était sur Eurosport et donc pour l'instant c'est
Eurosport France Télévisions. Bon bah voilà, c'est la dernière saison. Donc l'appel d'offres va être lancé au mois de mars.
On a été très sage parce que d'habitude on parle chiffres. Là on n'a pas parlé de chiffres. Montant. Sauf si tu veux en parler. Parce que je les connais pas. J'ai pas maîtrisé. J'ai pas suffisamment bien bossé le sujet.
La valeur de la Coupe de France, je la connais. On va savoir ce que.
C'est 12 plus 8. C'est quelque chose.
Donc minimum, t'arrives avec 20 et c'est bon. Les plus 8, c'est quoi les plus 8?
C'est 12 France Télé et 8 Eurosport. Après, il faut produire. Il y a quand même beaucoup de matchs.
Et là, il faut envoyer du pâté.
Sur les premiers tours, t'as, je sais pas, des dizaines de matchs.
Donc tu peux expliquer, par exemple, t'arrives avec 12 plus 8, on parle de la Coupe de France, parce que c'est la reine, c'est la compétition qui nous fait plaisir, qui fait plaisir à tout le monde, surtout quand on l'a gagné. Et donc 12 plus 8.
Et de quelle manière?
De quelle manière on l'a gagné? 12 plus 8, tu rajoutes à peu près combien? C'est combien le montant?
Tout
dépend de.
Non, mais tu sais, on l'a dit tout à l'heure, le marché dans ces trucs-là, ça dépend, c'est celui qui donnera le plus.
D'accord, 12 plus 8 pour les avoir.
Mais non, mais c'était ce qu'il y avait sur le cycle d'avant.
Ouais.
Mais peut-être que sur le cycle qui va arriver là.
On part du principe 12 plus 9, ok?
Je suis pas sûr du tout, Edouard. Pas du tout, en fait. J'ai des gros doutes sur le fait que.
Justement, on veut les avoir parce qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue, c'est ça, c'est important de la.
Je pense que.
Ok.
D'accord. Et puis, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'au-delà
C'est important, c'est intéressant de voir ça.
Au-delà de cet élément chiffré, que ce soit 12 plus 8 ou 20 plus 2, si tu veux, il y a aussi la proposition. C'est-à-dire que. La Coupe de France, c'est avec l'équipe de France pour la Fédé et les filles, puisque la D1 Arkema est gérée avec le national aussi, pardon, est géré par la Fédé. C'est quand même ton produit phare. Donc les notions de diffusion et de travail de la marque, je pense qu'elles vont rentrer en compte sur cet appel d'offre là, d'autant qu'effectivement,
Totalement.
Ça va être quoi, TF1 qui va rafler, puis après qui va refourguer.
Je pense que j'imagine pas une seconde TF1 être candidat sur la Coupe de France.
Ouais.
Parce que c'est. Je vais le dire, c'est pas très séduisant. Tu peux te retrouver, à la différence de la Coupe d'Espagne ou de la Coupe d'Angleterre,
où t'as un classico
garanti. Toujours des gros chocs. C'est quoi là, les demi-finales de la Coupe de France?
Versailles-Nice et Monaco.
Il y a Nantes.
Et non, ton accord.
Bon, alors, tu vois, quand tu as acheté très cher...
T'as pas Paris, t'as pas Marseille.
Et que tu te retrouves à devoir diffuser en prime time Versailles-Nice et Monaco-Nantes, tu fais, je pense, un tout petit peu la gueule. quand même.
Si ils ont fait, ils le méritent. Hein, entre,
non, mais bien sûr qu'ils le méritent.
Vachement populo et tout ça. Mais effectivement.
Mais le football vrai.
Ouais, le football vrai. Dédicace, Maxime. Dédicace
à Maxime. Et alors, tu vois, en fait, la Coupe de France, elle pâtit du fait qu'il y a trop de foot. On l'a dit, il y a trop de foot à la télé.
Est-ce que tu crois que c'est possible que. Mais il n'y ait personne qui aille au bout?
Ouais. Je pense que
c'est un risque.
Et c'est un risque, ouais.
Et ça m'amène une
question. Est-ce que, parce que c'est notamment ce qu'avait imaginé la LFP dans le cadre de la Coupe de la Ligue, est-ce que les diffuseurs peuvent forcer la refonte d'une compétition?
Mais alors, ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet hyper intéressant. Je pense que la Coupe de France mériterait, mais qu'il y aura des blocages culturels énormes, mais mériterait d'être regardée comme une compétition à refondre, oui, je le pense. Après, c'est tellement l'histoire du foot français, le petit Poucet, les 7 ou 8 tours, etc.
Dans une mesure différente, c'est aussi l'histoire de la Super League, alors qui est plus basée sur une fiction de revenus que culturelle de spectacle. Mais c'est de dire, aujourd'hui, le modèle et la compétition telle qu'elle est organisée et qu'elle redistribue les revenus qu'elle génère, ça ne nous intéresse plus, on veut disrupter le truc. Et ce que tu dis, moi je trouve ça hyper intéressant parce que la Coupe de la Ligue, qui était par ailleurs une belle compétition, a souffert probablement du fait qu'il y ait trop de foot et a perdu en valeur et donc s'est arrêté. Est-ce que, c'est quand même des compétitions historiques.
Non, mais la Coupe de France ne s'arrêtera pas.
Ouais.
Non, le seul truc, c'est que s'il faut lui redonner du lustre, alors il faut se poser la question
sur
de comment est-ce qu'on s'assure. C'est peut-être c'est pas bien de le dire, mais comment est-ce qu'on s'assure que les gros clubs vont loin, parce qu'en fait ils investissent pas beaucoup d'énergie sur la Coupe de France.
Non, on zappe.
Voilà.
Enfin, à Marseille, l'année où on a fait titre, à un moment donné on est obligé d'arbitrer des compétitions, donc
on gagne la Coupe de la Ligue cette année-là.
Coupe de la Ligue
2010. Ouais. Donc mais tu fais pas la Coupe de France,
tu zappes, je crois que c'est à Lens, quoi, on perd le match parce que tu peux pas, tu sais pertinemment que tu vas pas pouvoir enchaîner. En plus, on était en Coupe d'Europe aussi.
Ah oui, c'est vrai qu'on va loin à ce moment-là.
Benfica. Ouais. Et du coup, t'as un arbitrage et la Coupe de France, tu zappes. Et l'arbitrage, c'est vous l'avez gagné la Coupe de France, ouais. Bon, tu vois, c'est limite quelle coupe vous avez pas gagné pour voilà.
Oui, mais ce qui était encore plus vrai à l'époque de la Coupe de la Ligue, où dans la hiérarchie, entre guillemets, tu sacrifies d'abord la Coupe de la Ligue, ensuite la Coupe de France, ensuite l'Europa
League. Après, ça dépend. La Coupe de la Ligue, c'est celle qui te rapportait le plus d'argent, malheureusement.
Ah, d'accord.
Ouais, la Coupe de la Ligue, ça rapporte plus de sous-sous que la Coupe de France. Coupe de France pour le prestige.
Il faudrait qu'on revienne sur Mediapro.
Tu vois, j'y pensais.
Ah,
si, on va pas le faire chier avec Mediapro.
Eh bah si. Ah, une deuxième question après, qui est une question d'Edora à la base. Revenir sur Mediapro, dans le milieu, le Landerneau, voilà, on apprend aussi des mots quand on écoute Alternative Football. Qu'est-ce que vous vous disiez entre vous et après, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelles ont été les conséquences de l'affaire Mediapro, si tu peux en parler?
On se disait que c'était quand même un peu louche.
Ouais.
Et dès le départ, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais dès le départ, quand ils sont arrivés, même quand ils ont proposé tout ça, on s'est dit, mais allô?
Bah oui.
Enfin, pas les présidents.
Non, mais
pas les présidents de club, mais vous, les spécialistes, les experts. Comment ils vont faire? La fameuse phrase, mais comment ils peuvent? Ouais. Comment ils vont faire?
Je pense qu'ils font des choix qui sont pour le moins curieux.
Ouais.
Voilà. Et que parmi les raisons, c'est qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas voulu y aller quand même. Aussi.
La personne qui est choisie, c'est la dernière.
C'est peut-être pas la dernière, mais en tout cas, tu te dis.
Si je peux te donner mon sentiment sur l'affaire Mediapro, parce qu'on connaît bien le truc, et par ailleurs, je connais bien Mediapro pour travailler avec eux, notamment en Espagne. Ça a été très difficile à lire pour le marché. Déjà, parce que Mediapro, à la base, ils ne diffusent pas. Ils ont des capacités de diffusion. Oui, ils ont une chaîne en Espagne, mais c'est la première fois qu'ils allaient vraiment sur un droit pour le diffuser. Ils avaient essayé de le faire en Italie, ça n'avait pas marché. Donc, très honnêtement, moi, ma lecture et ce que je me plaisais à dire à tout le monde, c'est ouais, mais en fait, ils vont acheter des droits pour avoir des leviers de discussion pour vendre leur car, pour vendre leur capacité de production. Et pour moi, ils faisaient ça pour aller voir toutes les chaînes et dire, vous travaillez avec Euromedia, vous travaillez avec telle société de production, vous arrêtez, on vous vend les droits et dans le package, on vous met nos cars.
Moi, je pensais même qu'ils avaient spéculé et qu'ils allaient re-sous-licencier leurs droits. J'en étais sûr.
Je pense que personne pensait qu'ils allaient diffuser.
Ouais.
Je pense
en fait, je suis à peu près sûr qu'ils avaient en tête de se faire une chaîne potentiellement pour prendre une position en France, mais en refinançant une grosse partie, en vendant à Canal les matchs que Canal n'avait pas pu avoir. Et notamment le match du dimanche soir. Tu vois, eux, ils avaient toutes les affiches du dimanche soir. Donc les top matchs plus les 28 autres.
Et ils se sont dit, de toute façon, Canal, ils vont vouloir les avoir, ils vont les avoir comme ça, ils vont les envoyer.
La conviction de tout le monde, c'était que...
Je le crois.
Je suis entièrement d'accord. La conviction de tout le monde, c'était de dire que Canal ne voudra jamais perdre le dimanche soir parce que c'est institutionnel.
Ouais, c'est important.
Tu vois, c'est comme jour de foot, c'est comme téléfoot sur TF1, c'est un monument du foot et ils iront chercher ce droit-là quoi qu'il arrive.
Et Mediapro se retrouvent... Je pense que le schéma qu'ils se font, c'est... Alors, on va revendre 400 bars les matchs du dimanche soir à Canal+. Et puis, dans la petite corbeille de la mariée, ils vont nous distribuer notre chaîne où on fait les 7 autres matchs. Problème, en fait. Canal, ils n'ont jamais voulu discuter avec eux. Et Maxime Saada, le lendemain de la réponse de l'appel d'offres, il est, je ne sais pas sur quelle station de radio, et en fait, il est relativement prophétique en disant attendez, mais c'est ça ne vaut pas ce prix-là.
Ouais, et donc, il a dit c'est impossible que ce soit rentable.
C'est l'extrait qu'il
avait expliqué, je me rappelle, c'est impossible que ce soit rentable.
C'est l'extrait qui ressort 6 mois après. Quand...
Et c'est là où tu te dis franchement, il faut que ce soit rentable en fin de compte, l'idée, parce que ce n'est pas tout d'envoyer un montant comme ça. Et
après, ils ont quand même subi, les foudres. Canal, je pense que discuter avec eux, c'était juste non. Tu te retrouves à ne pas pouvoir dealer avec Canal, t'es mort.
Ils font l'appui le beau temps, Canal, on peut le dire.
Et c'est là où je pense
qu'ils ont une
histoire, et puis
c'est combien, 30, bientôt 40 ans, 37 ans, Canal+, qui sont là.
Et puis au-delà de ça,
c'est pas fondé sur rien.
Oui, et puis c'est le cinéma français aussi. Il y a des ramifications qui sont importantes chez Canal.
C'est une marque énorme, c'est tout.
Et je pense que tu as un excès de confiance de Raúl Errores et des Espagnols qui pensent qu'effectivement, parce qu'ils ont le droit premium, ils vont avoir le levier pour tout faire. Et en fait, ils peuvent pas tout faire.
Non.
Est-ce qu'il y a des conséquences de ça ? Est-ce que tu penses que le marché aujourd'hui, il est encore...
Mais les conséquences, elles sont terribles. Mais c'est bien, cela dit, ce sont des bonnes conséquences. C'est ce que j'ai dit à un moment, au début. Le marché français, tu ne sais pas pourquoi, tu as toujours un nouvel entrant. On dirait que c'est un Eldorado. Mais moi, je ne vois pas pourquoi le marché français, ce serait plus un Eldorado pour les diffuseurs premium que l'Angleterre ou l'Allemagne. En Allemagne, tu as 2-3 diffuseurs de sport. Tu as encore des chaînes publiques qui en diffusent beaucoup. En France... À un moment donné, tu te retrouvais avec 6 diffuseurs payants.
Et puis,
tu
as une audience plus dure. Tu as une audience qui accepte moins de dépenser pour le sport déjà à la base.
Non, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire d'avoir, d'être obligé d'être abonné à Canal+, beIN Sport, RMC Sport, Eurosport, Mediapro. Et Mediapro était remplacé par Amazon. Non, mais enfin, 5, il n'y a pas la place pour 5. Ouais. Donc là, en fait, tout à l'heure, je disais, eux, quand ils ont fait défaut, ça a quand même. Calmer tout le monde. Et tant mieux, parce qu'à un moment donné, il faut que ça se rationalise un peu. Donc maintenant, l'étage suivant de la rationalisation, c'est le foot, ça doit être moins cher, c'est comme ça. Il faut que ça se détende, notamment parce que ça fait beaucoup de mal à tous les autres sports. Le foot prend 90%
de la valeur
des droits. Donc, nous, on en profite.
Ce serait quoi le montant, un montant des droits de la Ligue 1 raisonnable ?
C'était un peu la question.
Mais
de départ.
Mais c'est pas juste la Ligue 1. C'est la Ligue 1 plus la Ligue des Champions plus l'équipe de France. Enfin, c'est quoi
la valeur du foot premium ?
Qu'est-ce que ça doit être la valeur ?
Mais ça, les droits de télé de l'équipe de France, c'est quoi ? J'ai entendu, c'est 35 millions d'euros, c'est ça ou pas ?
Alors, sur le cycle précédent, l'équipe de France, chaque match valait 3,5 millions de droits. Il faut savoir que sur le cycle d'avant, c'était 4,5 millions.
Oui, ça a baissé parce que. Voilà.
Et là, l'appel d'offres, il a eu lieu, il est infructueux. Les prochains matchs.
Ils veulent pas, je crois que c'est ça, le partage. Ouais.
Mais non, mais c'est surtout que TF1 M6, ils ont proposé 2 millions d'euros par match. Et puis, ils ont accepté, de ce qu'on entend, de monter à 2,5 millions. Mais en fait, je le pense.
Que ça va être plus sur un schéma baissier, quoi.
Mais, oui, et c'est assez logique. Alors, c'est dur.
Moi, je trouve que ça paraît logique, mais
c'est dur pour la FFF parce que finalement, l'argent qui rentre, comme les contrats de sponsors, ça vient financer le foot français, les clubs, etc. Donc, quelque part, typiquement, l'équipe de France, elle pâtit de la décroissance des droits du foot. peut-être plus que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui, pour l'instant, ils s'en sortent encore assez correctement, quoi. Mais voilà, il faut juste qu'il y ait un rapport avec ce que ça vaut économiquement, quoi. C'est pas de spéculation,
et,
le foot.
Et donc, du coup, la Ligue 1, ça vaut quoi ?
Mais je sais pas ce que la Ligue 1 vaut, je sais pas.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est trop difficile. C'est, trop...
J'ai pas fait les maths, j'ai pas fait les feuilles Excel pour vous dire combien ça vaut. Mais ça vaut pas un milliard.
Voilà, ça
aujourd'hui,
vaut.
Ça vaut pas un milliard, c'est tout. Okay. Et la Ligue des Champions, je pense...
Elle vaut pas 300.
Elle vaut pas 300 millions d'euros.
Grosso modo, les tarifs que Canal proposait au départ, c'était cohérent. On peut penser qu'ils avaient fait des chiffres.
Eux, ils l'ont fait.
Avec les abonnements, en plus, ils ont une base d'abonnés énorme. Ils ont dit, plus ou moins, c'est cohérent. Et après, tu peux avoir un petit surplus de 10% en fonction de si tu as une star, Neymar, Messi et tout ça, tu peux aller là. Ouais. Mais sinon.
Mais moi, je pense que Canal, c'est vraiment les meilleurs pour tirer le maximum d'une compète comme la Ligue 1 ou de la Ligue des Champions d'ailleurs.
D'abonnés où tu dis, c'est pour voilà, ça. C'est ça.
Ouais. Et puis, t'as aussi.
Tu peux pas arriver comme ça et dire que.
Non, mais ils ont 5 millions d'abonnés encore.
et puis, t'as une expérience aussi dans ce. Enfin, ça été... Ils ont aussi le droit payant. Le sport payant à la télé, ils ont aussi un peu construit le truc. C'est-à-dire que, tu vois, c'est eux qui ont fixé les premières règles du marché, donc tu as aussi quelque chose qui se remplace pas, c'est l'expérience. Et plusieurs fois, ils ont été, entre guillemets, mis en difficulté. À chaque fois qu'il y a un nouvel entrant, on dit, c'est terrible pour Canal, et tu te rends compte que, bon an, mal an, le droit revient, ils les récupèrent, ils passent un jour de distrib.
Ils travaillent très dur.
Ouais, ils savent plutôt bien faire.
Ouais, c'est sûr. Et eux, voilà, ils ont certaines qualités qui vont au-delà d'être sympas et de connaître tout le monde. Ouais. C'est qu'ils font un vrai travail de fond, de lobbying, et ils ne s'avouent pas vaincus parce qu'ils ont perdu une bataille. Ben, de toute façon, ils savent qu'ils sont là pour le long terme. Bein, maintenant, ça y est, ils sont à l'équilibre. Parce qu'ils ont un contrat de distribution avec Canal+, qui leur permet d'être à l'équilibre. Mais Bein, le marché français, c'est un des nombreux marchés sur lesquels ils sont. Je sais pas si demain ils décident pas d'arrêter.
C'est pas leur marché principal. Bein, ils ont en sport, ils ont plus de 20 chaînes au Moyen-Orient. Tu vois, et ils ont des chaînes de cinéma, c'est Al Jazeera, donc c'est adossé à un groupe qui est d'autant plus costaud. Donc c'est effectivement aujourd'hui la France, c'est un des marchés. Ils ont été présents en Espagne, aux États-Unis. Aujourd'hui, ils ont moins de droits, notamment aux États-Unis. On ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Donc cette notion de vision et d'être sûr d'être là dans quelques temps, elle est importante. Et pour faire la transition sur le fait d'être sûr d'être là, j'ai Maxime Marchand qui me regarde en passant sa main sur son sur son coup. Alors soit il me menace et j'ai très peur, soit c'est pour m'indiquer que
on a tellement dit des choses, on peut pas faire un podcast intéressant
que en fait je pense surtout qu'il a, il sait qu'au montage il a 2 heures et il transpire déjà. Nico, c'était vraiment super, merci beaucoup.
Bah merci à vous
pour cette super discussion. On a touché à plein de choses et je pense qu'on a pu rééduquer un petit peu les gens autour des droits, en tout cas je l'espère parce qu'on
non mais c'est nébuleux un peu les droits de télé, on parle beaucoup et on sait pas,
c'est le petit mystère
et ça expliquait un petit peu et puis en fin de compte les gens ils aiment bien payer le prix juste et on voulait savoir c'était quoi le prix juste,
voilà. Le juste prix comme disait
Alternative
Football.
Alternative Football,
beaucoup en parlent,
on parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.